Hier, je suis allé faire une randonnée dans la montagnette avec un ami. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et c'est un ami juif. Et donc, on a eu 4 heures de discussion dans tous les sens, comme à notre habitude. Et vraiment, il se crispe, il n'arrive pas quand on arrive au roi David. Le roi David est vraiment un personnage biblique qui l'embête. Parce que, il a commis adultère avec Bathsheba, il a commis ensuite un meurtre pour couvrir l'adultère, et il achoppe mon ami sur le fait que Dieu puisse lui pardonner, sur le fait que David puisse, après tout ça, être gracié et être heureux. Et avoir la joie du salut, avoir la joie de la grâce. Et on lit comment David exprime cela, par exemple au psaume 32. Et cette joie qui est la sienne, Seigneur veut qu'elle soit la nôtre. Amen. Alors, psaume 32, lisons comment il l'exprime. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et il termine en disant, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur. Voilà comment David exprime la joie, le bonheur que connaît le cœur de celui à qui Dieu enlève la peine, la pénalité, la condamnation de son péché. Cette joie que procure la grâce de Dieu, elle n'est pas que pour lui. Elle est pour nous aussi, et on le trouve dans l'Épître aux Romains. En Romains, au chapitre 4, Paul va rappeler toute cette histoire qu'a vécu David, sa repentance et la grâce dont il bénéficie. Parce que la grâce est une grâce, et si c'est par les œuvres qu'on est justifié devant Dieu, alors c'est plus par la grâce. Et en Romains 4, verset 6, il dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, sans les œuvres. Et il cite, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, c'est-à-dire pour les personnes qui suivent la loi, qui respectent la loi, qui sont sous la loi, pour plaire à Dieu? Ou est-il également pour les incirconcis? Et toute la suite va développer le fait que ce bonheur d'avoir nos péchés pardonnés, d'être couvert par la grâce, il est pour tous ceux qui s'approchent de Jésus-Christ dans la foi en son sacrifice, alors qu'on ne mérite pas. Et C'est là toute la joie que procure la grâce. Et ça, c'est une chose, mes amis, dont nous avons besoin de nous rappeler, de vivre avec abondance et constamment. Oui, nous qui avons suivi Jésus-Christ, nous avons suivi celui qui est venu pour apporter la grâce. L'épître de Jean l'exprime tellement bien. En Jean chapitre 1, au verset 14 et suivant, il est parlé de cette parole, de ce verbe qui s'est incarné, qui a été fait chair. Il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Au verset 16, il continue, il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de cette plénitude de la grâce, c'est-à-dire le fait que nos péchés, Dieu n'en tienne pas compte sans nous le faire payer, sans nous le faire payer à nous, mais où il nous déclare pardonnés, lavés, justifiés, notre conscience est purifiée gratuitement. Et tout ça, c'est gratuit. C'est un cadeau, c'est le don de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est le don que Dieu nous fait de nous réconcilier avec lui, de nous donner la vie éternelle, de ne pas tenir compte de nos fautes, même quand elles se renouvellent. Et chaque fois que nous nous souvenons d'un péché, ou chaque fois que nous péchons et que nous demandons pardon au Seigneur, nous sommes invités à ressentir ce bonheur que David ressent, cette joie, cet émerveillement. C'est encore incroyable, le Seigneur m'a encore pardonné. Il devrait m'en vouloir, il devrait être contre moi, je devrais en prendre une bonne cette fois-ci. Et le Seigneur est patient. Et le Seigneur pardonne avec fidélité dès que je demande pardon. Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lorsque nous péchons, nous pouvons venir au Seigneur et confesser et être pardonnés, être graciés, être justifiés et être rétablis. Être rétablis, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que Jésus-Christ nous rend dignes. Il n'y a pas une sorte de pénitence à accomplir avant d'être restauré, rendu digne aux yeux de Dieu. Non. Il nous redonne la joie du salut. Alors prenons Colossiens 2 qui va un petit peu nous parler de cette grâce, un peu plus en détail. Colossiens 2, versets 13 et 14. En Colossiens 2, verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. L'être humain il est mort. Il est mort devant Dieu par ses péchés, par ses offenses qu'il commet, qu'il renouvelle. Et alors qu'on est des hommes morts, eh bien, il y a la grâce de Dieu qui vient et qui efface, qui lave, qui ne tient plus compte de tous nos péchés. Et au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Un acte de condamnation. Un petit peu comme aujourd'hui devant la justice, on est accusé, on vérifie, il y a enquête, il y a des faits qui sont établis et puis qui sont notés. Et puis ça passe devant le juge. Et il n'y a pas moyen d'être trouvé innocent parce qu'on est coupable. Eh bien, la grâce, c'est le juge qui prend cette feuille, cet acte qui nous condamne à juste titre et qui va effacer. Il est même dit, il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est sur la croix que cette feuille de condamnation qui est la nôtre, eh bien, elle a été éliminée et a été clouée. Ce n'est pas le Seigneur Jésus a été cloué à la croix. Et en étant, en devenant péché pour nous, et en étant condamné pour nos péchés, en se substituant à nous, lui, cet agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Eh bien, quand Jésus a été cloué, c'est mon acte de condamnation qui a été cloué et éliminé à la croix. En Éphésiens 2, un autre beau passage qui nous parle de la grâce dans laquelle nous sommes lorsqu'on reçoit le pardon des péchés en Jésus-Christ. En Éphésiens, au chapitre 2, il commence de la même manière. Éphésiens 2 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà le Seigneur qui nous montre à quel point nous qui étions par nature des enfants de colère, pas mieux que quiconque. Eh bien, il a effacé nos offenses, il a pardonné nos péchés. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants en Jésus-Christ. C'est par la grâce que je suis sauvé. C'est pas par mes mérites, c'est pas parce que je le vaux bien. Et je suis ébahi et je suis émerveillé de ce que un coupable comme moi puisse être innocenté en Jésus-Christ. Je suis abasourdi qu'un coupable comme moi puisse échapper au juste jugement, à la juste condamnation, à la juste punition que je mérite. Et évidemment, c'est un sujet de joie parce que tout châtiment est un sujet de tristesse, de trouble, de peur. Et le Seigneur nous a libérés de cela. Et il y a cette joie ébahie devant la grâce. Comment ça se fait que moi je suis libéré? Comment ça se fait que je suis pardonné? Comment ça se fait que tu ne tiens pas compte, Seigneur, de tout ce que j'ai fait contre toi? Parce que Jésus-Christ a payé pour moi. Alors, oui, nous sommes vraiment appelés à non pas nous culpabiliser en regardant cette boue de laquelle nous avons été tirés, en regardant cet état de squelette, de mort vivant que nous étions. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser en repensant à des choses dont nous ne sommes absolument pas fiers. Seigneur ne nous introduit pas dans une vie de culpabilisation, mais par contre, il nous invite à regarder notre vie, nos actes, à la lumière de sa grâce. Non pas pour que notre cœur soit envahi par une sorte de culpabilité qui reste et qui dure et qui pèse, mais par une joie de surprise. Mais oh, avec tout ça, Seigneur, avec ça, puis je me souviens aussi ça. Ça t'a pardonné, tu l'as effacé, tu ne tiens pas compte. Seigneur, je te remercie. Vivons cette joie. Ça va encore plus loin. Il n'y a pas de trop grand péché duquel le Seigneur ne puisse pas nous pardonner. Et en Romains, au chapitre 5, au verset 20, il dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et on se dit « Oui, oui, mais mon ardoise, elle est vraiment lourde. » Jusqu'où Dieu peut aller pour me faire grâce? Peut-être si je suis un petit pécheur, ça va passer. Mais s'il y a vraiment des choses vraiment graves, importantes, répétitives que j'ai faites, est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Est-ce qu'il peut me gracier? La réponse est oui, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En 1 Timothée 1, nous trouvons l'apôtre Paul lui-même qui prend son propre exemple en disant, vous savez, moi, je suis le pire des pécheurs. S'il y a un type qui ne mérite pas d'être gracié, c'est moi. En 1 Timothée 1, au verset 13, il dit « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et j'ai obtenu miséricorde. » Et le verset 14 dit « La grâce de notre Seigneur a surabondé. La grâce de notre Seigneur, elle a surabondé dans ma vie. J'étais violent, j'étais de ma bouche et de mes mains. J'ai fait bien du malheur, bien du mal. Mais le pardon de Dieu a été plus grand que mon péché. Et il insiste au verset 15 en disant « C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, sa longueur d'âme, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Voilà, l'apôtre Paul dit, vous savez, je sers d'exemple, je suis pas le type qui aurait dû être gracié, qui mérite d'être gracié quelque part, non, absolument pas. Et je sers d'exemple pour la miséricorde de Dieu. Si Dieu m'a pardonné à moi, il vous pardonnera à vous. S'il m'a pardonné tout ce que j'ai pu faire, il vous pardonnera à vous tout ce que vous avez fait et quoi que vous ayez fait. C'est ça la grâce de Dieu. Nul péché n'est trop grand pour qu'il soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce à quoi nous sommes invités. La joie d'être gracié. Même lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, il ne s'agit pas simplement de la joie du pardon de nos péchés avant notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, mais aussi de la joie d'être pardonné et gracié sur le chemin de la vie chrétienne. Et à chaque fois que je chute et que je pêche, le Seigneur est fidèle pour pardonner, pour purifier de toute iniquité. Et nous avons des combats profonds. Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés à vaincre le péché. Nous avons des difficultés à lâcher certaines choses. Et il y a des péchés qu'on voit se répéter dans notre vie. On peut avoir l'impression d'en être prisonnier et que ça n'aura jamais de fin. Et on verra tout à l'heure que la grâce de Dieu intervient là aussi. Et dans tous ces moments-là, en Hébreux 4, verset 16, nous recevons une formidable invitation. Hébreux 4, 16. Hébreux, au chapitre 4, et au verset 16, il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de nos faiblesses. C'est le verset 15 qui dit que Jésus-Christ, en tant que homme parfait, a vécu les tentations, a vécu notre nature humaine, a vécu les difficultés, et il nous comprend, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, mais il nous comprend, et il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Et nous sommes invités à nous approcher de Jésus-Christ, d'où coule la grâce. Dans notre vie chrétienne, peut-être nous disons « je suis pas digne et j'ai tel péché qui traîne encore en moi et j'ai telle chose ancrée, j'ai telle tentation qui revient souvent et c'est que vraiment je dois être un mauvais chrétien, c'est que vraiment… » Et ça nous enlève notre assurance de nous approcher de Jésus-Christ. Et c'est le contraire qui doit se passer. On va le voir tout à l'heure, mais si nous nous approchons avec assurance de Jésus-Christ en disant « Seigneur Jésus, je m'approche de toi aujourd'hui parce que là, franchement, je suis nickel, je suis propre, je le vaux bien, je mérite. Je mérite d'être avec toi, là, tu peux être fier de moi. » On passe à côté. On passe complètement à côté. Et c'est le contraire qui se passe. Il nous dit, c'est quand tu te sens vulnérable, c'est quand tu te sens nul, c'est quand tu te sens, tu as besoin d'être secouru, tu, tu, tu vois bien que tu patauges dans ta nature humaine, dans tes tentations. Quand tu patauges, eh ben, sache que tu peux t'approcher, par un petit pas, peut-être que Jésus va me recevoir, on va voir. Non, il y a, approche-toi avec assurance, parce que tu as ce souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, qui te comprend, qui compatit à tes faiblesses, qui a été tenté comme toi en toutes choses. Et allez, viens recevoir la grâce, viens être secouru, tu vas obtenir miséricorde. Tu dis oui, mais ça revient et ça revient. Oui, Pierre disait au Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère, jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répond du nombre de fois où Dieu nous pardonne. Il dit, c'est pas 7 fois, mais au moins 70 fois 7 fois. Va. C'est comme ça que Dieu nous pardonne, même si, et dans l'exemple de Pierre, c'était un gars qui, chaque jour, il refaisait le même péché contre son frère. Il revenait demander pardon. Il revenait demander pardon. Pierre, il dit, j'en ai jusque-là. Est-ce que le Seigneur en a jusque-là? Non. Et là, on pourrait être comme mon ami juif et se dire, là, faut pas dépasser les bornes quand même. Il y a des bornes à la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ce passage nous invite vraiment à être dans la joie de la grâce. On patauge. Approche-toi de Jésus-Christ et ne sois pas méfiant ou inquiet. Approche-toi avec assurance et tu vas obtenir miséricorde encore et encore. Et tu vas être secouru dans tes besoins. Et c'est certainement dans ce sens que Paul pouvait dire à Timothée en 2 Timothée 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Plutôt que d'être découragé, abattu, déçu de soi-même et dans l'échec, il dit non, va puiser tes forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Retourne vers Jésus-Christ qui pardonne, qui justifie. Et puise tes forces dans cette grâce qui t'est faite. Fortifie-toi dans la grâce. Alors si je me sens un petit peu sans force dans ma vie chrétienne, si le combat contre le péché me décourage, je veux vraiment, comme dit Paul, j'aime la loi de Dieu, j'aime la volonté de Dieu et ce qu'il me demande, mais en moi-même, pour l'instant, j'en suis à un stade où je vois une autre loi qui lutte, c'est la loi du péché et de la mort, et je suis prisonnier là-dedans, là. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Viens te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de ne jamais oublier la joie que procure le fait d'être gracié. C'est extraordinaire. Alors parfois, on peut l'oublier. On peut l'oublier lorsque, petit à petit, on passe plutôt du principe de la grâce au principe des œuvres. Alors bien sûr, il y a ce principe-là avant notre conversion. Il y a des gens... Si vous leur demandez, ils sont croyants, ils sont de culture chrétienne, et vous leur demandez, vous pensez être sauvé et avoir la vie éternelle, pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez la vie éternelle? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes sauvé? Et ces gens-là, la plupart du temps, vous répondent, parce que je fais le bien. Je fais le bien, je, je fais mes efforts, voilà, je pense que je suis quelqu'un de bon, je suis pas parfait, je suis pas parfait, mais voilà, je pense que Dieu me, j'ai la vie éternelle parce que je fais le bien. Ça, c'est le principe du salut par les œuvres. On pense qu'on mérite d'être sauvé, on pense qu'on le vaut bien, et que vraiment, Dieu ne serait pas juste si, vu la personne qu'on est, il nous écartait de son ciel. Et là, on trouverait qu'il a un peu du culot quand même. Ça, c'est tout le contraire de l'esprit de la grâce. On n'a rien compris à la profondeur de notre péché. On n'a rien compris au mal du mal. On refuse de voir comment les racines du péché et de la méchanceté, au-delà de tout le vernis religieux, culturel, éducationnel qu'on peut avoir, on refuse de lever le voile sur une nature et un état de cœur qui est pas joli, joli. Et on se persuade qu'on est quelqu'un de pas si mal et que Dieu serait mal avisé de nous fermer la porte du paradis. Alors ça, c'est le salut sur le principe des œuvres. Et des gens se mettent dans cet état d'esprit à se dire, je vais devenir quelqu'un de bien et d'encore mieux. Pour pouvoir en quelque sorte prétendre au paradis. Pour que dans mon propre esprit à moi, je me dise, oui, ok, c'est bon, tu le mérites. Là, tu es devenu quelqu'un, tu as fait ce qu'il fallait, et ok, on est bien là. Alors selon nos croyances, notre culture religieuse ou pas, chacun va développer telle ou telle œuvre. Hein. Ça peut être des œuvres très religieuses, y compris le martyr dans certaines religions, ou ça peut être tout simplement s'investir dans des associations caritatives, etc., et tâcher d'être quelqu'un de un peu généreux, un peu bienveillant, et puis ça suffira. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Et on n'a pas de joie quand on ne passe pas par la grâce. Alors en Galates 2, verset 21, toute l'épître aux Galates d'ailleurs va s'adresser à des chrétiens qui ont connu la grâce de Dieu, qui se sont vus vraiment coupables, pécheurs, perdus, et qui ont accueilli avec joie le fait d'être graciés. Ils ont connu le bonheur qu'exprime David dans le psaume 32. Ils ont connu ça. Mais petit à petit, ils sont revenus à un fonctionnement par les œuvres. Ils sont devenus des chrétiens, puis peut-être des bons chrétiens, et puis, là, dans le contexte, ils se sont dit, on leur a dit plutôt, parce que des personnes sont venues les troubler, il va falloir rajouter peut-être, vous savez, la circoncision, il va falloir rajouter l'observance peut-être du Shabbat, il va falloir rajouter ceci, parce que sinon, vous savez, c'est pas sûr que vous soyez sauvés, il faudrait quand même faire ce qu'il faut là. En Galates 2, 21, Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Si vraiment je fonctionne en disant devant Dieu, bon, là, je suis OK avec Dieu parce qu'en fait, je suis un enfant de Dieu correct. Là, je suis correct. Donc, c'est bon, c'est pour ça que Dieu. Je peux être en relation avec lui, c'est pour ça que tout va bien entre nous. Il dit, mais si c'est ça, si c'est parce que tu fais ce qu'il faut, si c'est parce que tu fais ce que tu dois, si c'est parce que tu accomplis ce que Dieu demande, et que c'est ça le pivot, la clé de ta vie chrétienne, le Christ, il est mort pour rien. C'est pas ça qui te rend acceptable par Dieu. Et on peut en arriver dans notre vie chrétienne à perdre la joie de la grâce parce qu'on en arrive à une vie chrétienne qui est satisfaite d'elle-même si on a fait ceci, si on a fait cela, si on est en règle, si on est OK, si tel péché, on l'a réglé. Et c'est bien hein, le régler, je ne dis pas qu'il ne faut pas les régler. Mais on en arrive un peu à un état intérieur où finalement, on est plutôt dans une autosatisfaction devant Dieu. Et notre relation à Dieu, plutôt que d'être fondée sur le bonheur d'être gracié, plutôt que d'être fondée sur la joie redécouverte tous les jours, d'être un être empoisonné par le péché, mais qui reçoit l'absolution, qui reçoit le pardon, qui plutôt que de continuer sur ce pivot-là, petit à petit, on glisse. Et on est plutôt dans une démarche où on regarde sa propre vie chrétienne. Et puis, on est, alors là, je suis un peu déçu de moi, là, je suis plutôt content de moi, et puis, la fraîcheur de ma relation avec Jésus-Christ, eh bien, elle se ternit, parce que je cherche quelque part, dans ma relation avec Dieu, à être reconnu dans son regard, non pas à cause de Jésus-Christ qui pardonne et qui fait grâce, mais à cause du fait que je deviens quelqu'un capable d'accomplir la loi de Dieu, de faire ce que Dieu demande. En Galates 5, verset 4, bien sûr, ça peut aller loin. Comme chez les Galates, il en arrive même à dire « Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Frères et sœurs, il s'agit pour nous, pour être dans la joie que procure la grâce, de faire très attention à la force de la loi dans notre vie. Si nous donnons aux règles, à la loi, une place qu'elle n'a pas à avoir, nous allons déchoir de la grâce. Nous allons quelque part nous séparer de Christ parce que Christ est venu pour pardonner aux pécheurs et pas aux propres justes. Il a dit, je suis venu pour les malades parce qu'ils ont besoin de médecins, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Et dans notre vie chrétienne, nous devons vraiment veiller, au bout d'un moment, à ne pas nous regarder, nous prendre pour des biens portants et avoir notre relation avec Dieu dans une certaine satisfaction où on pense que Dieu est satisfait de nous parce qu'on est un bien portant. Alors attention, je ne dis pas que le cœur de Dieu n'est pas réjoui quand un enfant vit dans la fidélité, l'obéissance et la recherche de sa volonté. Absolument. Amen. Mais c'est notre regard à nous. Quand on commence à se prendre pour un bien portant et qu'on oublie que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Et qu'on oublie que finalement, le péché, il n'est pas si loin que ça. Il se tapit pas très loin derrière. Il me guette. Quand on fonctionne comme ça, on perd la joie. La troisième chose, pour que la grâce de Dieu continue de procurer la joie? Eh bien, c'est tout simplement de continuer à explorer la grâce en avançant davantage et davantage dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'en venant à Jésus-Christ, oui, il y avait des zones de ma vie où vraiment, là, j'avais besoin de la grâce de Dieu et j'étais émerveillé qu'il me pardonne. C'est vrai que j'avais commis adultère, j'avais dérobé 300 000 euros à mon patron, j'avais commis des attouchements sur un enfant, est-ce que Dieu pardonne toutes ces choses? Amen. Et il y a des trucs. Mais quelle libération quand on sait qu'on est pardonné. Oh, l'être humain, lui, pardonne plus difficilement, ces choses-là. Seigneur, pardonne. Alors là, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, il y a cette joie du nouveau converti qui est pardonné par son Seigneur. Et puis, petit à petit, il avance dans la vie chrétienne et voilà, il s'installe. Et puis, au bout d'un moment, ben, il ne goûte plus la grâce de Dieu et la joie de la grâce de Dieu. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'avance pas plus dans la sanctification. Et plus nous allons accepter de nous tenir devant Dieu avec cette prière que David pouvait faire, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, quelque mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il demande vraiment au Seigneur de ne pas cesser son travail de scrutateur, d'observateur attentif. Alors c'est vrai que quand on commence la vie chrétienne, on fait un petit tour d'horizon, et on voit les gros péchés, on voit ceci, cela. Mais le Seigneur ne veut pas s'arrêter là. Il veut continuer d'aller en profondeur dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos actions. Il veut continuer de sanctifier, de purifier. Il veut continuer de développer en nous le caractère de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous n'avons pas ce caractère, nous passons à côté du but. Et le Seigneur veut que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure de notre vie chrétienne, nous allons continuer et continuer et continuer de découvrir des failles, des faiblesses, des péchés. Et on va se dire, mais j'en aurai jamais fini. Oh, je crois qu'on n'aura jamais fini. Mais justement, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'à chaque nouvelle trouvaille, à chaque nouvelle découverte que le Saint-Esprit montre en disant, tu vois là, tu pêches, tu vois là, c'est tordu ton truc, c'est subtil, mais c'est tordu. Peut-être c'est petit, mais je veux aller dans les détails. Eh bien, à chaque détail, à chaque chose que le Saint-Esprit de Dieu va mettre en évidence, eh bien, il y a la joie de la grâce. Il y a la joie d'être pardonné aussi de cela. Et quelque part, imaginez un chrétien qui pense être arrivé au bout de sa sanctification en disant, ben voilà, ma vie maintenant, elle est nettoyée. Ma maison est propre, la maison de mon cœur, ben, elle est nettoyée, ça y est, je crois que Jésus, merci Seigneur, tu as fait du bon ménage et je m'en réjouis. Eh bien, il n'y aura plus aucune nouvelle occasion de ressentir ce bonheur qu'exprime David d'être pardonné. Et on sait bien qu'en fait, s'il pense que sa maison est complètement lavée, nettoyée, il se ment à lui-même. Nous avons du parcours à faire et il s'agit de permettre au Seigneur de continuer d'avancer dans ce nettoyage, dans cette sanctification. Et ça s'accompagne de la joie d'être pardonné. Alors ne nous arrêtons pas. quand on stagne dans notre vie chrétienne, parce que quelque part on arrête la permission qu'on donne quelque part au Saint-Esprit de nous convaincre de péché, toujours plus loin. Lorsqu'on pose un peu ses valises et qu'on se dit, bon, là, c'est, non, ça va, je vais pas aller plus loin. Ben, c'est dommage parce qu'en fait, on perd la joie que procure la grâce. Alors, continuons d'explorer. Tout à l'heure, j'avais mentionné des combats. Des combats qu'on peut avoir face au péché et on est triste et on vient au Seigneur et on les confesse, puis il recommence. Et le Seigneur nous pardonne, et il recommence, et le Seigneur nous pardonne. Eh bien, continuez dans la grâce, parce que 2 Pierre 3,18 nous dit « croissez dans la grâce ». Nous sommes appelés à croître, à grandir dans la grâce. C'est aussi découvrir quelque chose et d'expérimenter quelque chose de formidable que Romains 6 nous enseigne. Nous voyons souvent le fait que la grâce de Dieu nous libère de la pénalité du péché. Ça veut dire quoi? On voit le fait qu'on devait avoir une punition, la grâce de Dieu enlève cette punition. Terminé, et on se réjouit. Et ça, c'est le premier point, c'est formidable. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la grâce de Dieu, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Non seulement la grâce de Dieu nous libère de la pénalité du péché, mais elle nous libère aussi de la captivité du péché. C'est quoi la différence? Je fais mal, je demande pardon, et le Seigneur ne punira pas, je suis libéré de la pénalité. Mais je ne trouve pas de clé, de moyens, de ressources pour que ce cercle infernal, pour le coup, s'arrête. Et Paul l'exprimait en disant, pour ainsi dire, lui, il se mettait à la place d'un chrétien qui vit ça, et dit « Qui me libérera de ce corps de mort ? Qui me délivrera ?» Et la suite dit « Grâce soit rendue à Jésus-Christ. » Parce qu'il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors en Romains, donc, je disais, en Romains 6, nous lisons cela. Parce qu'on pourrait dire, que dirons-nous donc, verset 1er ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Eh ben oui, on a dit, tu sais, et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors on pourrait penser, bon ben, je vais continuer de vivre dans une vie où, ben comme je pêche, mais Dieu pardonne, je pêche et Dieu pardonne, je pêche et Dieu pardonne, et puis tant pis, c'est comme ça. Il dit non. Il dit, la grâce, elle va plus loin que juste te pardonner, elle va aussi te libérer de la puissance, de la captivité de ce péché qui t'oblige, qui te contraint à le commettre. Et tout Romains 6 va nous dire non, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et nous allons découvrir ici que le Seigneur nous a libérés de la puissance, de la captivité du péché. Et le verset 15 le dit. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Et le verset 17 dit, mais grâce soit rendu à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Et le verset 18, fondamental, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et il le répète, au verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, ne nous décourageons pas. Être expérimenté que nous sommes affranchis du péché, ça demande dans notre compréhension de l'œuvre de Dieu, un cheminement, un travail. Au départ, on croit juste qu'on est pardonné. Et on expérimente juste la joie d'être pardonné. Et puis au bout d'un moment, on se débat, on combat, on dit « Ouais, mais tel truc, ça revient, j'aimerais l'arrêter, mais ça revient. » Et on s'approche avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce. Et c'est ce que nous devons faire. Et le Saint-Esprit va nous faire croître dans la grâce et viendra le temps où le Seigneur nous fera comprendre, nous fera saisir que sa grâce nous libère aussi de la captivité du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché pour lui obéir. C'est fini. Cette force, cette contrainte qu'il avait sur nous, eh bien le Seigneur nous dit, tu sais, dans ma grâce, je te libère de ça aussi. Alors, quand nous découvrons et que nous expérimentons aussi cet affranchissement, vous imaginez la joie qui est là. La joie de cette grâce, pas juste d'être pardonné, mais de découvrir qu'on est aussi libéré de l'esclavage du péché. Frères et sœurs, le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous conduire à découvrir, à expérimenter et à réexpérimenter parce que cette délivrance de la force du péché, cet affranchissement, il est pour toute notre vie. Et à chaque fois qu'on le vit, il y a une joie formidable qui l'accompagne. C'est le « waouh ! Je ne pensais pas que Dieu dans ma vie, ça pouvait aller jusqu'à là. Je pensais que c'était juste être pardonné du mal que je fais, mais maintenant, Seigneur, tu es allé bien plus loin. Et c'est formidable. Nous allons terminer par la chose la plus compliquée et à la fois la plus simple, la plus importante, des choses qui font qu'on perd la joie de la grâce. Vous vous souvenez de la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18? C'est ce gars qui doit des millions et des millions à son maître. Il vient implorer, il vient supplier pour pas être jeté en prison, et le maître fait grâce. Et il a la joie de la grâce. Mais elle dure pas très longtemps parce qu'arrive une de ses connaissances à qui il a prêté de l'argent, qui lui doit de l'argent, et il dit, oh, dis donc, tu dois me rembourser. Et l'autre dit, mais j'ai pas de quoi te rembourser, je t'en supplie. Patiente, accorde-moi un report. Et l'autre, le cœur est fermé, et dit, alors là, c'est hors de question. Il vient se faire gracier, mais il refuse la grâce à son prochain. Et quand Jésus donne cette parabole, c'est exactement pour répondre à la question de Pierre, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Alors, lisez avec moi Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Et nous devons, ce dernier point, être particulièrement vigilants sur ça, parce que ce qui va nous voler la joie, ce bonheur d'être gracié, eh bien, c'est de ne pas gracier les autres. C'est de ne pas pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. c'est de fermer notre cœur et de rester dans l'amertume. Et Hébreux, au chapitre 12, au verset 15, l'exprime de la manière suivante. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a plusieurs manières de se priver de la grâce de Dieu. Bien sûr, la première manière, c'est de dire « je suis trop pécheur pour être pardonné ». La deuxième manière, c'est d'arrêter la démarche de la sanctification et de dire au Seigneur « sonde-moi, connais mon cœur, regarde, parce que je veux avancer ». Et on se prive de la grâce de Dieu. Et puis, la troisième manière de se priver de la grâce de Dieu, c'est de laisser des racines d'amertume pousser dans notre âme. Ça peut être de l'amertume contre Dieu, c'est souvent de l'amertume contre les frères et sœurs. Et nous avons vraiment besoin de comprendre que la grâce doit se transmettre. La grâce doit se communiquer. Lorsqu'en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, je coupe le robinet, alors bien sûr le robinet, je l'ouvre grand pour moi. Moi, le Seigneur, il peut me gracier autant que nécessaire parce que j'ai besoin d'être pardonné. Là, j'ouvre le robinet en grand. Mais lorsqu'il s'agit que moi, je pardonne aux autres, là, je ferme le robinet. Et bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il est impossible de jouir de la grâce de Dieu si nous ne faisons pas grâce. Et la joie de la grâce, pour nous, elle s'envole, elle disparaît. On n'est plus heureux dès l'instant où, contre des personnes, que ce soit dans l'église, à l'extérieur de l'église, on est dans l'amertume, on est dans l'absence de pardon, on en veut, on est dans ce conflit qui moisit, qui pourrit, et qu'on n'ouvre pas notre cœur pour faire grâce, pour pardonner, même si l'autre n'a pas demandé pardon. En fait, on est en train de faire comme le serviteur impitoyable. J'ai reçu la grâce de Dieu pour moi et ça me va bien. Mais ne me demandez pas maintenant de faire ce que Jésus a fait pour moi. Ça, non. Il l'a fait pour moi, merci. Mais moi, je ne vais pas le faire pour les autres. Et bien là, on devient un chrétien qui vit sans la joie de la grâce. Et ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Alors, nous trouvons plusieurs passages de la parole qui nous invitent justement dans nos relations, non seulement à pardonner, et dit « pardonnez-vous et pardonnez de tout votre cœur », mais en plus, dans nos relations, de faire attention à nos paroles. Proverbe 10, 32 dit « Les lèvres du juste connaissent la grâce. » Est-ce que mes paroles sont pour piquer ou est-ce qu'elles sont pour transmettre la grâce? Et dans le Nouveau Testament, nous avons à cet égard un passage capital, Éphésiens 4, 29. Vous pouvez le prendre, Éphésiens 4, 29. Mes filles le connaissent bien, elles peuvent nous le réciter. Mais elles ont appris une version un peu infantilisée. À l'époque, c'était quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais plutôt des paroles qui servent à encourager. Ça, c'est comme ça que je leur avais fait apprendre. C'est pas tout à fait comme ça. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, donc qui servent à construire, à bâtir plutôt qu'à détruire. Et la suite, et communique grâce à ceux qui l'entendent. Et communique une grâce, communique grâce à ceux qui l'entendent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Nous avons reçu la plénitude et grâce pour grâce, nous dit l'évangile de Jean. Il s'agit de répandre, de transmettre. Et dans notre manière de parler, dans nos relations, s'il y a une occasion, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent grâce à ceux qui l'entendent. La grâce de Dieu doit se transmettre par nous, doit se transmettre par notre cœur, doit se transmettre par nos pardons, doit se transmettre par nos paroles. Colossiens 4, verset 6, le reprécisera, parce que c'est pas toujours évident de savoir comment, que dire, quoi répondre. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et cela nous renvoie à ce que nous avons lu tout à l'heure, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Une parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, qui permettent de construire. Il s'agit de faire avancer, de permettre de construire, mais surtout de ne pas oublier de communiquer la grâce. Et voilà peut-être notre principal combat pour rester dans la joie. Il s'agit ce matin de cette joie que procure ce bonheur en Dieu d'être gracié. Eh bien, cette joie, ce bonheur, ils disparaissent quand je ferme le robinet et que la grâce que je reçois et que j'ai reçue, que je continue de recevoir, eh bien, ne se propage pas, ne se transmet pas aux autres autour de moi. Là, il y a un résultat qui est instantané, c'est que je perds la joie de la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ce cadeau, cette faveur, ce pardon immérité que tu nous as donné. Tu nous invites à grandir, à croître dans la grâce. Pour ça, Seigneur, nous voulons toujours nous souvenir d'où nous venons, d'où tu nous as tirés. Tu ne nous as pas sauvés parce qu'on le vaut bien, parce qu'on le mérite. Nous a sauvés tout simplement parce que tu nous aimes gratuitement, nous ne sommes même pas aimables, et tu nous aimes. Et tu as choisi, décidé d'effacer notre peine. On veut, Seigneur, en être surpris, en être ébahi, et en être heureux et joyeux. Seigneur, plus tu nous montres à quel point notre cœur est tortueux et méchant par-dessus tout, dis-tu, on le voit pas tout de suite, mais plus on le mesure et plus tu nous dis, mais je t'ai lavé, je t'ai justifié. Et plus, Seigneur, notre joie de ton pardon est grande. Aide-nous à continuer là-dedans. Aide-nous, Seigneur, à ne pas passer à être des chrétiens qui se croient bien portants et qui se privent de ta grâce. Et puis, Seigneur, tu vois, on ne veut pas stagner. On ne veut pas vivre sans la joie de continuer de bénéficier de ton pardon, de ta grâce par rapport à du péché, peut-être un petit peu plus subtil et caché en nous, mais que tu veux régler. Puis Seigneur, peut-être notre plus grand problème, c'est de pardonner aux autres, c'est de communiquer ta grâce, c'est de parler en transmettant ta grâce, en communiquant ta grâce à ceux qui nous entendent. Seigneur, tu vois nos paroles souvent dures, intransigeantes, piquantes, mais pas ton sel. Seigneur, nous voulons vraiment apprendre à parler en communiquant grâce à ceux qui nous entendent de ta part. Nous voulons, Seigneur, pardonner. Peut-être nous avons du mal en ce moment, Seigneur, à pardonner. Et du coup, nous avons une certaine amertume, nous avons perdu la joie de la grâce. Seigneur, tu nous invites ce matin à prendre une décision de pardon et de pardonner de tout notre cœur. De faire grâce pour que nous puissions à nouveau nous réjouir de ta grâce à toi pour nous. Seigneur, aide-nous à réfléchir à tout cela pour que nous soyons plus joyeux, plus heureux et plus admiratifs. Parce que tu nous as donné grâce pour grâce et nous l'oublions vite. Aide-nous à vivre pleinement dedans. Au nom de Jésus. Amen.